Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, notre politique antiterroriste est-elle efficace ? Le 13 novembre 2015, dans les heures qui suivent les attentats de Paris, le gouvernement décrète l'état d'urgence. Un régime d'exception dont la France est sortie il y a tout juste un an, au prix d'une vote d'une nouvelle loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Certaines dispositions relevant de l'état d'urgence font alors leur apparition dans le droit commun, notamment les perquisitions administratives ou la fermeture de lieux de culte. Un an après, la France connaît une certaine tranquillité sur le plan terroriste. Non pas que la menace ait disparu, pas plus que les attaques. Il faut se souvenir par exemple de celle du 23 mars dernier à Carcassonne et Trèbes dans l'Aude. 4 personnes tuées, sans compter l'assaillant. Mais si l'on s'en tient au bilan humain, celui-ci est bien en deçà de ce qu'a connu le pays en 2015 et en 2016. La baisse du nombre de saisines à la section antiterroriste du parquet de Paris en est un autre indicateur. Alors est-ce à dire que les lois successives votées pour endiguer le phénomène produisent leur effet et qu'en est-il de leur évaluation ? Notre politique antiterroriste est-elle efficace ? C'est la question du soir en compagnie de trois invités. Katia Dubreuil, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente du syndicat de la magistrature, qui est une des organisations représentatives de la profession des magistrats. Vous exercez le métier de juge d'instruction, même si la fonction que vous occupez aujourd'hui est une fonction à plein temps. Pour discuter avec vous, Elie Tenenbaum, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, coordinateur du laboratoire de recherche sur la défense. Et vous venez de publier « Partisans et centurions, une histoire de la guerre irrégulière au XXe siècle ». C'est aux éditions Perrin. Et puis notre troisième invité, il est au téléphone. Il s'agit de Sébastien Pietrasanta. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes consultant sur les questions de terrorisme au sein du cabinet Pietra Consulting, qui est votre cabinet. Ancien député socialiste, vous avez été le rapporteur de différentes lois sur le terrorisme entre 2012 et 2017. Rapporteur également de la commission d'enquête sur les attentats de 2015. Alors on va se poser donc ce soir la question de l'efficacité de la politique antiterroriste à travers les lois, bien sûr, à travers également les opérations à l'extérieur. Mais je voudrais d'abord, pour faire un premier tour de table, savoir si vous considérez que l'efficacité est le critère essentiel pour évaluer une politique antiterroriste. Katia Dubreuil.
Bah écoutez, nous, on était à la fois critiques sur l'efficacité des textes qui ont été adoptés, notamment l'année dernière, en novembre, et sur ce que ça pouvait produire, parce que pour nous, la loi qui a été adoptée en novembre 2017, c'est une loi, finalement, de soumission de la démocratie au risque terroriste. Et l'efficacité, effectivement, n'est pas le seul critère à l'aune duquel on doit examiner ces législations. On estime qu'il y a eu une contagion en termes d'atteinte aux droits, de possibles discrimination de notre droit par ces mesures qui ont été votées. Et c'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte quand on examine effectivement la mise en œuvre de ces mesures.
Donc un critère, mais pas le critère, en tout cas pas le critère principal pour vous. Est-ce que c'est aussi votre avis, Elie Tenenbaum ?
Écoutez, dans le domaine des études stratégiques, on a l'habitude effectivement de réfléchir en termes d'efficacité et de se poser la question de l'efficacité comme critère principal. Mais il faut distinguer toujours l'efficacité de court terme et l'efficacité de long terme. Et dans le cas que vous posez ici des législations et des mesures antiterroristes, vous pouvez avoir des mesures qui sont efficaces à court terme pour réduire la menace, mais précisément parce que, comme l'explique Madame Dubreuil, vous pouvez avoir des atteintes aux droits, une mise à mal d'un certain état de droit, voire des discriminations ou un ressentiment, on va dire, vis-à-vis des populations ciblées, qui à long terme retournent l'efficacité contre sa propre arme et pose des problèmes finalement à la fois sur des points plus fondamentaux même que la menace que l'on cherchait à traiter au départ.
Sébastien Pietrasanta, sur cette question de l'efficacité, peut-être aussi justement sur la question du temps pour juger de cette efficacité des lois antiterroristes.
Alors d'abord, je suis de ceux qui pensent que la fin ne justifie pas tous les moyens à mettre en œuvre. Il faut évidemment mettre un certain nombre de moyens en œuvre, mais dans le respect droit, et surtout il faut faire la distinction entre les mesures qui peuvent être des mesures efficaces, utiles, et des mesures qui peuvent apparaître comme de l'affichage ou comme une volonté de vouloir rassurer la population et qui sont dans l'ordre de la politique au sens large. Et donc à partir de là, il faut arriver à faire cette distinction.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi mettre en œuvre peut-être des outils qui permettent d'évaluer justement ce qu'est cette efficacité? Est-ce que vous considérez, Sébastien Pietrasanta, que ces outils aujourd'hui existent? Ou bien est-ce qu'il faut les moderniser à chaque fois qu'une nouvelle législation apparaît? On peut dire qu'en matière d'antiterrorisme, il y a eu de nombreuses lois.
Oui, il y a eu cette inflation législative à laquelle j'ai d'ailleurs aussi participé. Mais ce que je veux dire, c'est que on a mis en place un certain nombre d'outils de contrôle, que ce soit la Commission nationale des contrôles des techniques de renseignement, la CNCTR, la délégation parlementaire au renseignement qui a été renforcée. Néanmoins, c'est vrai que des mesures qui permettent de contrôler le travail des services de renseignement. Aujourd'hui, mesurer l'efficacité, on le mesure à la fois au nombre d'attentats déjoués, 20 attentats déjoués en 2017, 50 depuis 2015. Mais on voit bien qu'il y a des mesures qui peuvent être efficaces à très court terme et qui ne le sont pas à moyen ou long terme. Je prends par exemple le cas de l'état d'urgence. Moi, j'étais de ceux qui n'ont pas souhaité une prolongation indéfinie de l'état d'urgence, tout simplement parce que le contrôle parlementaire qui s'est exercé notamment sous la houlette de Jean-Jacques Urvoas à l'époque quand il était président de la commission des lois avait montré que l'état d'urgence avait été entre guillemets efficace les 15 premiers jours de sa mise en œuvre parce qu'il y avait l'effet de surprise avec les perquisitions administratives et que au fil du temps les choses se sont délitées et qu'il n'y avait plus du tout cet effet de surprise et donc cette efficacité s'est forcément amoindrie.
Et on a vu d'ailleurs que le nombre de mesures avait considérablement baissé, hein, ce qui est assez normal finalement. Katia Dubreuil, sur la question notamment des outils peut-être d'évaluation.
Bah, écoutez, il y a des données qui sont des données factuelles qui peuvent permettre d'avoir un regard sur l'efficacité, entre guillemets, des mesures qui sont prises. Concernant les mesures qui ont été prises pendant l'état d'urgence, on voyait bien quand on regardait simplement les chiffres que les parlementaires d'ailleurs contrôlaient régulièrement, que par exemple on a décidé de faire des perquisitions administratives, il y en a eu plusieurs milliers, plus de 4000, et que celles qui ont donné lieu finalement à des affaires judiciaires, donc à des développements parce qu'il y avait des éléments à creuser, étaient très peu, de l'ordre de quelques dizaines. Donc on avait des éléments et très vite, nous au syndicat de la magistrature et d'autres organisations qui sont rassemblées au sein d'un réseau antiterrorisme et droits et libertés, on a dénoncé l'inutilité de l'état d'urgence. Donc non seulement pour nous, ce sont des mesures qui sont dangereuses pour l'état de droit, parce qu'elles insinuent au cœur de notre démocratie, mais en plus, on a toujours indiqué que fait à l'appui qu'il y avait une inutilité de ces mesures-là, de même que le fait de les reprendre dans le droit commun et donc de les inscrire durablement dans notre état de droit était quelque chose de dangereux et d'inutile. Maintenant, sur l'appréciation, enfin les outils qu'on a aujourd'hui pour en juger, on a effectivement la rapporteuse de l'ONU qui nous a dit, quand elle est venue en France, qui a dit qu'il fallait qu'il y ait une évaluation indépendante extérieure qui ne soit pas uniquement celle des pouvoirs publics. Ce n'est pas le cas actuellement. On a simplement ce qui a été voté dans la loi, la nécessité tous les ans que le gouvernement remette un rapport au Parlement sur la mise en œuvre des mesures qui ont été votées en 2017. Pour le moment, on n'a pas encore ce premier rapport, voilà, on l'attend. Nous, on a demandé justement avec d'autres organisations à être entendus par la commission des lois à ce sujet. On a demandé à plusieurs reprises aussi une transparence bien plus importante que les quelques chiffres qui sont sur le site de l'Assemblée nationale, en écrivant au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur, en demandant d'avoir des données très... Il y a énormément de mesures finalement qui sont prises et donc pour avoir une transparence sur ces mesures, il faut avoir des données complètes qu'on n'a pas. On n'a jamais eu de réponse. Donc oui, on estime que pour l'instant, les outils sont insuffisants.
Alors je vais vous faire réagir, Elie Temenenbaum, mais je refais juste un petit crochet par Sébastien Pietrasanta par rapport à l'accès aux données qui permettent justement d'évaluer, enfin qui sont des éléments d'évaluation d'une politique. Quand vous étiez rapporteur de la commission parlementaire suite aux attentats de 2015, est-ce que vous, comme député, vous aviez eu des difficultés à justement obtenir suffisamment de données pour mener votre commission d'enquête?
En fait, il y a eu deux choses par rapport à ce qui a été dit. D'abord, il y a eu un contrôle parlementaire sur l'état d'urgence uniquement, qui était sous la houlette, comme je l'ai dit, de Jean-Jacques Urvoas, qui était président de la commission des lois, et d'un député de l'opposition, qui était Jean-Frédéric Poisson. Les deux ont fait des visites de surprise, ont écrit un certain nombre de courriers, ont obtenu des réponses du ministère de l'Intérieur, et ont fait un certain nombre de déplacements, j'allais dire, dans les préfectures pour vérifier l'état d'urgence. Et tous les 15 jours, en commission des lois, ces deux co-rapporteurs nous faisaient un point sur la mise en œuvre de l'état d'urgence. Et j'ai assisté en janvier 2016 à une série d'auditions des directeurs départementaux de la sécurité publique, des colonels de gendarmerie, plus les principaux patrons des services de renseignement, et on les a interrogés sur l'utilité, l'efficacité, comment ils vivaient la question de l'état d'urgence. Et tout cela a fait l'objet de rapports, de chiffres qui ont été donnés, et je peux vous dire que le Parlement, à ce moment-là, a joué un rôle extrêmement important de contrôle de ce qui a été fait. Et heureusement, je le dis très sincèrement, heureusement que le Parlement était là pour contrôler et pour éviter des anomalies. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour répondre à votre question, en tant que rapporteur de la commission d'enquête sur les attentats de 2015, cette commission d'enquête s'est déroulée de février à juillet 2016. On a pu auditionner, comme c'est une commission d'enquête, auditionner qui on souhaitait. Il n'y a eu aucune difficulté par rapport à ça. Et deuxième chose, c'est tous les éléments qu'on a demandé, que ce soit les chiffres, des éléments de chronologie par rapport aux attentats, nous ont été donnés. C'est les prérogatives et le pouvoir d'une commission d'enquête qui, comme on le sait maintenant avec l'affaire Benalla, permet d'être assez large et de pouvoir avoir un certain nombre de prérogatives qui lui permettent de pouvoir avoir toutes les pièces demandées.
Elle était d'un homme.
Et alors sur ces questions de contrôle de l'efficacité des politiques antiterroristes, j'ai deux choses je pense qu'il faut garder en tête. Tout d'abord, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit sur l'importance de contrôle d'institutions extérieures qui peuvent être soit issues de la société civile, soit d'organisations intergouvernementales ou international. Et de ce point de vue-là, voilà, moi je témoigne, travaillant à l'IFRI dans un think tank indépendant, de l'importance de pouvoir accéder à un certain nombre de documents administratifs qui permettent de faire avancer la recherche sur la lutte contre le terrorisme et la compréhension aussi du phénomène au-delà des politiques mises en œuvre et des mesures de contrôle parlementaire qui sont tout à fait nécessaires et importantes. Et on utilise dans la mesure du possible les rapports, les excellents rapports parlementaires qui peuvent être faits par les commissions, mais il y a eu le débat par exemple sur l'accès d'un certain nombre de chercheurs aux fichiers des personnes signalisées pour la prévention de la radicalisation et du terrorisme, le FSPRT, un fichier d'environ 20 000 noms aujourd'hui. L'accès des chercheurs à ce fichier aujourd'hui permettrait de faire avancer considérablement l'état de la connaissance scientifique, alors, évidemment dans la mesure voilà, de la protection de l'individu, mais sur ce qui est des biodonnées, qui permettrait quand même considérablement de faire avancer la connaissance. Je pense aussi vis-à-vis des documents du ministère de la Justice. Marc Ecker, chercheur à l'IFRI, a publié il y a un peu moins d'un an, un document de recherche à partir des attendus des jugements. Il a eu une difficulté extrême de se procurer ces documents qui sont censés être publics, accessibles, mais que le ministère de la Justice ou les autorités autorisées ne voulaient pas réaliser.
Alors, puisque vous avez évoqué les Tenenbaum, et ça a aussi été le cas de Sébastien Pietrasanta, ce FSPRT, fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste, qui date de mars 2015, qu'il faut distinguer des fameuses fiches S, hein, on n'est pas du tout dans le même fichier, même s'il peut y avoir évidemment des connexions entre ces deux fichiers. Donc hier, il y avait des chiffres qui étaient publiés dans le journal du dimanche, un peu plus de 20 000 personnes qui y sont. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'évaluer l'efficacité, justement, d'un tel fichier, Katia Dubreuil, fichier qui est censé, par exemple, permettre d'orienter mieux, en tout cas correctement, les perquisitions?
Ce qui est certain, c'est que du point de vue des fichiers, il y en a énormément qui ont été créés ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. Il y en a un certain nombre dont on ignore le contenu parce qu'ils sont classés secret défense. Donc on a un décret au Conseil d'État qui nous dit ce jour on crée un fichier et c'est classé, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc nous, organisations qui n'avons pas accès à ces données-là, il est bien difficile pour nous d'avoir un contrôle quelconque sur ces données. Donc on ne peut travailler aujourd'hui que sur les données qui sont, encore une fois, rendues publiques sur le site de l'Assemblée nationale, mais il s'agit simplement du nombre de mesures administratives qui peuvent être prononcées sur les différentes mesures possibles actuellement.
Le contrôle, il ne peut pas se faire a posteriori, c'est-à-dire une fois qu'une procédure a été engagée, par exemple une perquisition, à partir d'un tel fichier, le pouvoir judiciaire n'a pas les moyens aujourd'hui d'évaluer si le recours à ce fichier était justifié ou pas.
En fait, il y a un certain nombre d'éléments qui font que aujourd'hui, dans une procédure pénale, elle est ouverte à la suite d'une procédure qui a été initiée par les services du renseignement, vous n'avez pas l'ensemble des éléments, des notes ou des documents qui ont pu être établis pendant la première phase de la procédure, qui se retrouvent forcément dans la procédure pénale, puisque le but, enfin l'idée, c'est effectivement que les services de renseignement ils font des documents, ils travaillent dans l'ombre. Et donc, normalement, on n'a pas forcément accès, ensuite, de manière contradictoire, aux éléments qui ont pu être mis à jour par ces services-là. C'est bien tout le problème, c'est que, justement, ce ne sont pas des éléments qui sont sourcés. Quand vous avez une note blanche du renseignement, vous n'avez pas qui a constaté quoi, à quelle heure, c'est pas signé par une personne, par un enquêteur, etc. C'est bien, d'ailleurs, toute la difficulté, c'est que il y a une hybridation, si vous voulez, entre les logiques judiciaires et les logiques administratives. La logique judiciaire, c'est qu'on a une infraction pénale qui est prédéterminé. On n'a pas le droit de faire telle chose qui est écrite dans la loi. Et si on a des preuves qu'on a bien fait cette chose-là, on peut encourir des privations de liberté, des sanctions pénales, etc. La logique administrative, elle est tout autre, elle est préventive, elle repose pas du tout sur des éléments qui sont à la fois sourcés et qui sont à la fois contrôlés par une autorité différente du pouvoir exécutif.
Sébastien Pietras Santa, vous étiez, vous, dans la majorité parlementaire au moment de la création de ce fichier. J'y reviens un petit peu sur ce FSPRT, parce que c'est vrai qu'on n'en entend finalement pas tellement parler. Est-ce que pour vous, c'est un outil plus fin qui a permis peut-être de mieux cibler les personnes qui pouvaient se radicaliser et qui pouvaient être amenées à envisager des opérations terroristes?
Alors pour le coup, pour moi, je considère que le FSPRT, effectivement, est un fichier qui est utile. Est un outil utile pour les services de renseignement, même si c'est encore une fois un fichier n'est pas la recette miracle en matière de lutte contre le terrorisme, mais pour le coup le FSPRT, il répondait à un vide qui était que il y avait des fichiers qui étaient éclatés entre les différents services de renseignement et puis il n'y avait pas de centralisation de tous les signalements. Ce FSPRT, juste en quelques mots, juste rappeler comment il est créé. Il est créé à partir du numéro vert qui a été mis en place par le gouvernement en avril 2014, le numéro vert pour signaler les cas de radicalisation. Et donc, il y a un certain nombre de vérifications qui sont faites ensuite. Et puis, il est également alimenté par les états-majors de sécurité dans chaque département, c'est-à-dire par les services de renseignement déconcentrés qui remontent à l'échelon national à l'UCLAC, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, et il est également alimenté par les propres fichiers des différents services de renseignement du ministère de l'Intérieur. Donc c'est un outil qui est alimenté de trois sources différentes. Et ensuite, surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce fichier redescend. C'est-à-dire qu'il redescend dans chaque préfecture où qui doit permettre d'éviter les trous dans la raquette. C'est-à-dire que chaque individu qui est dans ce fichier-là doit être ensuite, entre guillemets, pris en charge par les services de renseignement déconcentrés en fonction de sa dangerosité. Et donc, plus il est dangereux, plus il est pris en charge par la DGSI, ou s'il est moins dangereux, il est pris en charge par le renseignement territorial ou par la gendarmerie. Et donc, ça permet d'éviter, c'était ce que voulait Bernard Cazeneuve à l'époque, d'éviter qu'il y ait des trous dans la raquette quand un individu signalé radicalisé change de département, comme c'était le cas notamment, vous savez, sur l'auteur de la tuerie de Saint-Quentin Falavier, qui avait décapité son patron et qui n'était pas réellement suivi par les services déconcentrés. Et donc c'était un objectif important du FSPRT.
Il ne s'agit pas de critiquer le principe ou l'utilité même en tant que tel de tels fichiers qui peuvent permettre d'éclairer le paysage pour les services de renseignement, mais on a eu un problème de confusion, au moins dans le débat public, entre justement les outils du renseignement pour décrypter un paysage qui est complexe avec une menace qui est multiforme, les mesures administratives par ailleurs qui effectivement ne sont pas d'ordre judiciaire mais néanmoins néanmoins, on va dire, ont un effet sur la vie des personnes, ce qui n'est pas forcément le cas d'une observation de la part du service de renseignement. Et ensuite, les mesures judiciarisables qu'on peut ensuite verser à un dossier. Et donc, quand on entendait, par exemple, un ancien président de la République parler d'expulser ou d'assigner à résidence l'ensemble des personnes qui sont dans un tel fichier, on a vraiment une confusion entre l'outil qui est celui du renseignement, les mesures administratives qui peuvent être prises par ailleurs, et enfin les mesures qui méritent d'être judiciarisées.
Alors, il y a un élément que j'évoquais en tout début d'émission, qui était cette baisse du nombre et de la gravité, surtout des attentats terroristes en 2018. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Il y a eu, je le rappelais, cette prise d'otage, notamment dans un supermarché à Trèbes, et puis quelques heures auparavant à Carcassonne, il y a eu 4 morts plus le terroriste. Et puis, en mai dernier, une attaque au couteau à Paris, dans le quartier de l'Opéra. L'assaillant avait été tué, il y a eu 4 blessés, dont 2 blessés grièvement. Pour autant, donc, c'est quand même un bilan qui est moindre par rapport notamment aux années 2015 et 2016. Est-ce qu'on peut faire facilement un lien, justement, entre les mesures législatives notamment, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi les opérations extérieures qui sont menées par la France pour lutter contre le terrorisme, justement, entre à la fois ce dispositif législatif, ces opérations extérieures et la baisse, disons, de la fréquence des actes terroristes sur le sol français, Elie Tedenbaum?
Il faut comprendre que la lutte antiterroriste en France, et ce de plus en plus, ça l'est depuis les années 90, mais particulièrement depuis les années 2000, a cette dimension préventive qui prend de plus en plus le pas sur la dimension répressive qui est gérée par le judiciaire.
Et ce qui répond à une demande au moins de l'opinion. L'opinion, ça n'existe pas vraiment, mais enfin, bon, en tout cas, voilà, à la population.
Absolument, et personne n'accusera les gouvernements et les services de police de déjouer des attentats avant qu'il ne soit commis. Mais le résultat, c'est que les mesures préventives, il est extrêmement difficile d'évaluer leur efficacité, puisque par définition, quand une mesure préventive est efficace, il ne se passe rien, ou quand on empêche un attentat, vous n'avez pas l'attentat. Alors vous avez le nombre des attentats déjoués, vous avez un certain nombre d'éléments qui peuvent jouer, mais globalement, il est toujours difficile d'évaluer l'efficacité de dispositifs préventifs. Maintenant, de ce qu'on peut lire et de ce qu'on peut voir dans la littérature sur le sujet, il y a évidemment des moyens de sécurité, de renseignement, d'entraves qui se sont décuplés depuis les attentats de 2015 et qui ont évidemment pesé sur la capacité des groupes terroristes à mener des opérations efficaces sur le territoire national. Et ensuite, il y a eu une évolution de la mouvance et des modes opératoires liés aux opérations extérieures sur le plan militaire. On pourra peut-être en parler. Et si vous voulez, une évolution de la mouvance djihadiste globale qui est aujourd'hui dans une phase d'affaiblissement indéniable et qui pèse sur à la fois les velléités et la capacité de ces organisations à mener des opérations, des attentats.
Voilà, donc pas évident de démêler ce qui relève des causes extérieures, disons en tout cas des éléments extérieurs, des éléments nationaux. Même question pour vous, Katia Dubreuil, et ensuite Sébastien. Pietrasanta, Katia Dubreuil, je rappelle que vous présidez le syndicat de la magistrature.
Oui, je pense qu'on ne peut pas, par rapport à cette question de l'efficacité, on n'a aucun élément pour pouvoir relier l'absence, en tout cas le fait qu'il y ait moins eu d'attentats d'ampleur depuis 2017, avec les mesures, en tout cas administratives, qui ont été adoptées, les mesures d'état d'urgence, puis les mesures administratives qui en sont inspirées et qui sont maintenant dans le droit commun, tout simplement parce que par rapport à la question de la prévention des attentats, on a déjà un droit pénal, une intervention de la justice qui est extrêmement préventive. C'est d'ailleurs pour ça que nous on critiquait l'utilité de ces mesures administratives, parce que du point de vue du droit pénal sur le terrorisme, on a des actes préparatoires qui sont punis par le code pénal, l'association de malfaiteurs en vue de commettre un acte de terrorisme, et le droit pénal a d'ailleurs évolué ces dernières années en allant de plus en plus dans la prévention et la possibilité finalement de poursuivre quelqu'un et de le condamner, y compris pour des actes préparatoires extrêmement loin d'un acte terroriste.
Donc certains actes qui relevaient du délit qui sont aujourd'hui considérés comme
voilà,
des crimes.
Il y a eu une aggravation par ailleurs effectivement des peines.
Ce qui peut avoir peut-être un effet dissuasif. Alors je sais bien que voilà, c'est toujours compliqué là aussi de savoir si la dissuasion fonctionne en matière de...
Oui, en matière de terrorisme, les personnes étant prêtes en général à perdre la vie dans les actes qu'elles commettent, c'est pas forcément effectivement quelque chose de très dissuasif. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que par rapport aux mesures de l'état d'urgence, puis de leur reprise dans le droit commun, on voit aucun lien, aucun effet, à part par contre des effets qui sont ceux...
Enfin, on voit pas le contraire non plus, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de dire s'il y a un lien, mais...
On n'est pas capable de... On n'a pas d'éléments pour dire telle mesure administrative n'aurait pas pu être prise dans le cadre judiciaire, parce que, si vous voulez, aujourd'hui, les critères sont extrêmement ténus pour décider de faire une procédure administrative ou judiciaire. Des indices ou un début de commencement d'éléments sur une personne dont on pense qu'elle a peut-être effectivement des liens, etc. Ça permet à la fois de faire une procédure administrative ou une procédure judiciaire, d'ouvrir une enquête, puisque comme je vous le disais, on a des infractions aujourd'hui qui sont quasiment dans la prévention des actes de terrorisme. Donc on peut choisir l'un ou l'autre, et qui choisit entre l'un et l'autre, c'est pas vraiment l'autorité judiciaire, en fait c'est pas vraiment transparent, parce que c'est plutôt, c'est la fameuse commission de contrôle des actes des enquêtes qui donne son avis sur les techniques de renseignement, qui peut effectivement dire non, là ça relève pas du renseignement, il faut peut-être agir dans un autre cadre.
Donc en tout cas, ce que vous dites, Katia De Bruyne, c'est que les outils, ils existaient, il n'y avait pas besoin forcément de faire une nouvelle loi, mais c'est plutôt la question du contrôle derrière qui peut poser notamment problème.
Ce que je voudrais juste ajouter, c'est que par contre, des effets pervers potentiels, on en voit déjà, on voit que les périmètres de protection sont utilisés par exemple en continu quasiment autour de la gare de Lille ou du port de Dunkerque, plutôt a priori à des fins de lutte contre l'immigration clandestine que de lutte contre le terrorisme. On voit, parce qu'il y a eu des études, il y a quand même des chercheurs qui essaient de se pencher sur ce sujet, qu'il y a des effets en termes de sentiment de discrimination par rapport aux musulmans. Enfin, il y a un certain nombre d'effets pour le coup qui sont objectivables et qui doivent être objectivés.
Sébastien Pietrasanta.
Plusieurs choses par rapport à ce que vous dites. D'abord sur le fait que clairement, on peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'attentat depuis mars ou qu'il y a une diminution de la menace uniquement par les outils législatifs. Vous l'avez rappelé, au-delà de l'inflation législative qu'il y a eu en matière de terrorisme, il y a aussi des moyens réglementaires, des moyens techniques, des moyens humains et financiers qui ont été débloqués. C'est quand même une mobilisation assez générale de la société dans la lutte contre le terrorisme, que ce soit le renforcement des services de renseignement, que ce soit les mesures de prévention qui ont été mises en place ou des moyens financiers qui ont été débloqués. Néanmoins, ce qui a été dit est tout à fait vrai, c'est que par la force des choses, avec la menace terroristes et les attentats qui se sont multipliés en 2015 et 2016, les services de renseignement ont interpellé beaucoup plus rapidement que ce qu'ils ne le faisaient avant. C'est-à-dire qu'avant, ils attendaient non pas le dernier moment, mais ils consolidaient le dossier pour que ça tienne la route d'un point de vue judiciaire. Et là, les coups de filet se font beaucoup plus précocement, parce que la menace est telle que il faut éviter évidemment de pouvoir avoir un individu qui passe entre les mailles du filet. Et donc il y a ces coups de filet assez préventifs, et après toute la difficulté pour les services de renseignement, c'est de pouvoir étayer la procédure judiciaire et de faire en sorte que ça tienne la route devant la justice. Et c'est pour ça qu'on a des affaires qui malgré tout peut en tout cas interroger sur la manière dont les choses sont faites. Après, sur la question du contrôle, là aussi je pense que il y a beaucoup de choses qui ont été faites en matière de contrôle des techniques de renseignement. La CNCTR s'est déjà opposée au gouvernement en la matière, a même déféré, je crois, une décision devant le Conseil d'État. Donc il n'y a pas de raison que le CNCTR ne joue pas son rôle. Il faut certainement, je réponds à une question précédente, il faut que le pouvoir parlementaire joue et exerce pleinement son rôle. Et malheureusement, parfois, on a un certain nombre de parlementaires qui sont assez tétanisés sur les questions de terrorisme, de peur de mal faire ou de pas comprendre. Et puis, effectivement, moi, je suis de ceux qui considèrent qu'on peut avoir un regard citoyen, un regard associatif à partir du moment où il est organisé, qui permet de pouvoir regarder les choses. Mais ce qui est certain, c'est que on a mis en place un certain nombre de mesures qui sont des mesures de fait exceptionnelles dans la lutte contre le terrorisme parce qu'il y avait une situation exceptionnelle, mais ces mesures exceptionnelles dans la lutte contre le terrorisme ne doivent pas servir à autre chose. Et c'était pour ça que le contrôle sur l'état d'urgence était très important pour que ça ne soit pas dévoyé et utilisé à d'autres fins. Et ce qui est dit sur les périmètres de protection par rapport à la lutte contre l'immigration clandestine, moi, m'interpelle. C'est-à-dire qu'on peut pas mettre en place des outils exceptionnels et dire que c'est des outils exceptionnels dans la lutte contre le terrorisme et les utiliser à d'autres fins.
Et l'état d'un mob ?
Oui, absolument. Juste sur ce qui vient d'être dit et sur l'hésitation entre les mesures administratives et les mesures judiciaires, faut quand même être conscient, c'est vrai, mais les services de renseignement aujourd'hui sont incités à judiciariser dans la mesure du possible s'ils peuvent le faire leur procédure, et en sachant que si aujourd'hui vous voulez mettre quelqu'un en prison pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, vous devez passer par le judiciaire. Les mesures administratives sont quand même, elles peuvent être intéressantes dans un premier temps, mais globalement, aujourd'hui, si vous voulez priver quelqu'un de liberté, le mettre véritablement hors d'état de nuire pour quelques années, vous devez quand même en passer par la procédure judiciaire.
Alors, il y a aujourd'hui, justement, en France, plus de 500 personnes qui sont en prison pour terrorisme. Ça, c'est ce que j'ai pu lire dans un article assez récent du journal Le Monde. Selon la procureure générale auprès de la Cour d'appel de Paris, parce qu'on a parlé d'interpellations, mais certaines interpellations ont été suivies, justement, par des incarcérations, 47% des condamnés pour faits de terrorisme seront sortis en 2020, 80% en 2022. Est-ce que l'efficacité d'une politique antiterroriste, elle va aussi se juger par à la fois les mesures qu'on saura mettre en place pour gérer ces sorties de prison, et puis aussi sur la façon dont les gens vont sortir de ces lieux de détention.
Absolument, c'est d'ailleurs un point qui a été pointé du doigt par le dernier rapport du Sénat qui est sorti en juillet sur les moyens mis en œuvre pour la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, on a un déficit clairement du côté de l'administration parlementaire, de l'administration pénitentiaire, pardon, et des services de communication, d'anticipation sur ces sorties, sur ces libérations qui posent problème, même si pour l'instant on a un taux de récidive qui en fait est moins élevé dans le cas du terrorisme que sur les délits de droit commun. Cependant, on a des cas de récidive et des célèbres. Hein, Chérif Kouachi, dans les attentats Charlie Hebdo, avait été condamné à la suite d'un procès des filières des buts de Chaumont. La Rossi Abala également avait été condamné, donc on a des cas de récidive, et c'est un problème d'autant plus quand on regarde l'état du contentieux terroriste aujourd'hui et l'augmentation de la population carcérale, hein, 500 détenus terrorisme islamique, et un chiffre qui est amené à augmenter, et il faut dire que là on est quand même sur un angle mort de la politique antiterroriste, même si il y a des recherches qui sont faites, il y a des tentatives d'amélioration du côté de l'administration pénitentiaire, ça patauge quand même encore un peu.
Il y a notamment eu d'ailleurs un plan national qui a été présenté en février dernier de prévention de la radicalisation, déradicalisation, prévention de la radicalisation. Ça fait aussi partie des questions à laquelle est soumise notamment l'administration pénitentiaire sur cette question, Katia Dubreuil.
Oui, c'est sûr que c'est un aspect qui est extrêmement important et dans lequel il faut réussir. Et malheureusement, on n'a pas réussi à le faire pour ce qui concerne les mesures de l'enquête et de judiciaire et les mesures administratives, mais espérons qu'on arrivera à le faire pour ce qui concerne le post-peine, post-sententiel. Il faut arriver à ne pas rester dans le côté tétanisé pour dire, oh là là, ce sont des terroristes, donc on ne peut octroyer aucun aménagement de peine, on ne peut qu'attendre la fin de la peine, parce que imaginons qu'on laisse sortir une personne avant la fin de sa peine et qu'elle commette à nouveau des faits ou qu'elle commette des faits de nature terroriste, ce serait dramatique.
Et mais le si fait d'être tétanisé, si elle purge l'entièreté de sa peine, est-ce que l'idée c'est de dire elle a purgé sa peine et comme toute personne qui a purgé sa peine, point barre, on arrête là?
Non, mais ce qui est, enfin, si vous voulez, pour faire des aménagements de peine, enfin, pour préparer la sortie des personnes, on sait très bien dans toute la délinquance en général que si on fait une sortie sèche de prison et qu'on n'a pas effectivement une préparation avec un sas, une libération conditionnelle, avec un suivi, etc., on a une chance plus importante, évidemment, de que la personne récidive, qu'elle ne se réinsère pas correctement et qu'elle récidive. Et donc, il faut réussir à garder cette logique aussi en matière de terrorisme et ne pas considérer que ce sont des faits qui sont de telle nature qu'on doit faire des exceptions dans tous les domaines, aussi bien pour ce qui concerne l'enquête que pour ce qui concerne la gestion des détenus et des personnes qui ont été condamnées pour ce type de fait. Et puis il faut aussi faire attention aux amalgames entre une personne qui est condamnée pour apologie du terrorisme ou pour des actes préparatoires ou pour un projet, etc. C'est pas les mêmes profils, c'est pas les mêmes personnes et on englobe tout ça dans le mot terrorisme qui évidemment effraie énormément les citoyens et c'est bien normal.
Préparer la sortie notamment à travers des conditionnel, Sébastien Pietrasanta. Alors ça, on imagine que sur le plan politique, c'est un terrain extrêmement glissant.
Que, moi, je pense que l'enjeu numéro un, il est vraiment sur les sorties de prison, sur la prison en tant que telle, parce que pour les surveillants et pour les autres détenus, les choses ne sont évidemment pas simples et qu'il y a un vrai enjeu en matière de sécurité, notamment des personnels pénitentiaires à qui je voudrais rendre hommage, premier élément. Deuxième élément, on a beaucoup parlé des revenants de Syrie et d'Irak, mais je pense qu'effectivement l'enjeu pour les prochains mois et les prochaines années, c'est vraiment les sortants de prison. Et par rapport à ça, vous avez souligné le fait qu'il y avait 500 individus qui ont été condamnés pour terrorisme ou qui sont préventifs pour terrorisme. Mais à cela, il faut ajouter...
Ce qui est un peu globalisant d'ailleurs, hein, parce qu'il faut bien préciser qu'ils ne sont pas tous... c'est pas la même gravité.
C'est pas la même gravité. Après, soyons honnêtes aussi, il n'y en a pas non plus énormément qui sont en prison pour apologie du terrorisme. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas non plus une quantité importante. Ce que je veux dire, c'est qu'à cela, il faut ajouter à peu près 1200 à 1300 individus qui sont détectés comme radicalisés, mais qui sont en détention pour du droit commun. Et donc, c'est quand même un chiffre évidemment très très important qui s'ajoute à ces 500 individus. Et par rapport à ça, il y a eu d'abord il y a une prise de conscience de l'État. Il y a une cellule spécifique sur les sortants de prison qui a été mise en place au niveau de l'UCLAT. Hein. Je rappelle que c'est l'unité de coordination de la lutte antiterroriste qui se veut transversale avec l'administration pénitentiaire, avec les services de renseignement, pour que un individu qui sorte de prison, qui a été condamné pour terrorisme, continue à être évidemment suivi par les services de renseignement. À cela, on a créé également le fait que ils puissent devoir pointer au commissariat à la sortie de prison pour qu'on sache toujours où il est concrètement, exactement, avec la création d'un nouveau fichier qui pour le coup sera lui à disposition des maires. Mais vous avez raison, l'enjeu est d'éviter les sorties sèches. On peut pas uniquement être dans l'isolement, uniquement dans le fait de pouvoir prévenir la menace terroriste. Il faut pouvoir prendre en charge ces individus radicalisés. Et là, il faut avoir l'honnêteté de dire que dans cette masse des 500 plus de ces 1200 à 1300 individus, il y a des gens qui vont, sur lesquels on pourra agir, travailler et les désengager, comme on dit maintenant, puisque déradicalisés, et d'autres sur lesquels on aura beaucoup de difficultés et sur lesquels il y a effectivement ce côté très très honnête, hein, il faut être honnête, un peu irrécupérable, et sur lequel pesera une menace et sur lequel il faudra prendre d'autres dispositions.
Une toute dernière question, Lité Nenbaum. Alors, il y a plein de sujets qu'on aurait pu aborder ce soir, notamment justement les opérations que mène la France à l'extérieur, qui méritera sans doute une prochaine émission. Mais il y a ce soir à Paris une conférence européenne contre le terrorisme qui réunit 7 ministres européens de la justice, notamment. La question de la coopération internationale, et à commencer par la question de la coopération européenne en matière de lutte contre le terrorisme, là, il y a des choses qui bougent.
Oui, c'est évidemment un point central qui a été levé à partir des attentats de 2015, de novembre 2015, hein, qui avait été quand même élaboré depuis la Syrie, logistiquement élaboré en Belgique et finalement mené en France. Donc donc c'est évidemment une question centrale. Il y a pas mal de mesures qui ont été prises. Maintenant, il y a aussi des retards. Hein, le PNR, le fichier pour les passagers sur les compagnies aériennes, qui a été validé en 2016 par la Commission européenne, tarde toujours à être mis en place. Donc, vous avez un certain nombre de mesures qui ont été prises. Europol s'est particulièrement développé. Aujourd'hui, est une agence qui encourage et développe la coopération entre les polices, mais il reste encore des choses à faire, à la fois sur le plan multilatéral et bilatéral.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Katia Dubreuil, Sébastien Pietrasanta et Elie Tenenbaum, je rappelle, votre dernier livre, Partisans et Centurions, aux éditions Perrin. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Fanny Richer, Camille Ferré, Antoine Dulcer et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Alexandre Fougeron, avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan. Arnaud Laporte, La Dispute, on parle théâtre ce soir comme tous les lundis.
Très bien, vous en souvenez, depuis une heure que je vous l'ai révélé.
Quel comédien.
Ouais.
Je veux voir. Il a perdu ses réflexes, hein. Une semaine de vacances et c'est plus mes
merveilles. Je me suis ramolli.
On va parler dans.
Vous allez voir demain.
Alors demain, quelle question pour le Grain à Moudre ?
L'Union européenne est-elle prise au piège de ses propres règles ? Non, c'est intrigant tout ça.
Vous avez dit quoi, le titre, c'est ?
L'Europe est-elle prise au piège de ses propres règles ?
L'Union européenne est-il ?
Vous voulez savoir si vous avez une faute de français dans votre titre. Alors passez la bande, vous verrez. J'ai dit est-elle.
J'écoute votre podcast tous les soirs en rentrant chez moi. Merci beaucoup, Hervé Carnet, il est 19h. Les titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.